La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Le sort du navire humanitaire l'Aquarius se joue en ce moment à des milliers de kilomètres de la Méditerranée au Panama.
Oui, le petit pays d'Amérique centrale où l'Aquarius, rebaptisé Aquarius 2, avait trouvé un refuge administratif le mois dernier après que Gibraltar lui avait retiré son pavillon. Panama donc s'apprête à en faire de même, nous dit le journal panaméen El Siglo, qui détaille la justification officielle. Le bateau s'était enregistré dans les registres maritimes comme navire océanographique, mais il effectue des missions de secours aux migrants en violation, nous dit-on, des lois internationales sur l'immigration et l'asile. L'espagnol El País décrypte pour nous. Ce qui est reproché finalement à l'équipage géré par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, c'est d'avoir secouru ces derniers jours 58 réfugiés, d'avoir refusé surtout de les livrer aux gardes-côtes libyens qui sont censés organiser les secours et prendre en charge les rescapés pour les ramener à terre. Or, les ONG brandissent elles aussi les lois maritimes, mais pour justifier le fait qu'il est hors de question de débarquer des migrants en Libye, pays qu'ils ont fui et qui est loin de leur assurer des conditions de sécurité suffisantes. Derrière cette décision panaméenne, c'est bien le gouvernement italien et son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui sont pointés du doigt, nous confirme El País. Rome aurait exercé des pressions politiques et économiques brutales sur le Panama pour que l'Aquarius se retrouve sans pavillon, sans statut légal pour naviguer. Le risque, selon la Stampa à Rome, c'est que le bateau, qui est l'un des derniers à continuer ses opérations de secours, là où tant d'autres ont baissé les bras, ne deviennent un bateau fantôme, une sorte de pirate humanitaire, ce qui ferait, il faut bien le dire, la joie de Matteo Salvini, mais rendrait le travail de l'équipage, les conditions de survie des personnes secourues aussi, encore plus ingérables. C'est donc de Panama que devrait venir la prochaine grande victoire juridique de Salvini, au moment, nous rappelle Il Corriere della Sera, où le ministre d'extrême droite présente ce matin en Conseil des ministres son décret sécurité-immigration, un texte qui durcit considérablement la politique d'accueil de l'Italie, qui remplace les permis de séjour pour raisons humanitaires par d'autres attribués sur des critères de mérite civil. Il renforce aussi la criminalisation des migrants, facilite l'expulsion de ceux qui auraient des démêlés avec la justice et de ceux qui seraient considérés arbitrairement comme représentant une menace à la sécurité nationale. Autant de mesures qui sont critiquées comme contraires au droit d'asile international par l'éditorialiste du Corriere. Mais à en croire Il Giornale, Matteo Salvini s'amuse par avance de ces critiques. Hier, il fanfaronnait même. Vous allez voir que mon décret va faire hurler l'ONU, la Croix-Rouge, les végétariens ou les défenseurs des animaux. Mais je m'en fous. Fin de citation.
Et en Grande-Bretagne, Camille, la tempête du Brexit souffle désormais sur le camp travailliste.
Le Labour, qui réunit son congrès depuis hier et jusqu'à mercredi à Liverpool, son leader Jeremy Corbyn pourrait bien détenir la clé du cauchemar Brexit, analyse The Independent. Mais il faudra pour cela qu'il arrive à sortir de l'ambiguïté. Le parti travailliste doit voter demain, mardi, une motion qui va affirmer sa position sur la possibilité d'un nouveau référendum sur le Brexit, mais Corbyn, lui, continue de privilégier une autre voie, celle d'élections générales anticipées, dont il espère tirer un plus grand bénéfice politique. Le pari est très risqué, selon The Independent, qui se base sur les derniers sondages, donnant le Labour et son rival, le Parti conservateur, dans la marge d'erreur, ou presque, en cas d'élection cet automne. Les deux partis traditionnels n'auraient rien à en attendre de bon. Alors, Corbyn devrait suivre la grande majorité des militants travaillistes et se prononcer en faveur, clairement, d'un nouveau vote du peuple sur le Brexit, selon Matthew D'Ancona, à lire dans The Guardian. Bien sûr, l'organisation de ce deuxième référendum polariserait la vie politique britannique pendant des mois. Ce serait un casse-tête rien que d'écrire la question à poser aux citoyens. Mais quelle autre solution, après tout, semble se demander l'éditorialiste. Et pourtant, cette possibilité d'un retour au vote populaire ne convainc pas Scott McTaig dans The New Statesman. Je ne parierais pas dessus, nous dit-il en tout cas, pas sur ce qui est présenté comme un vote sur le principe même du sortie de l'Union Européenne. Si référendum il devait y avoir, ce qui est loin d'être sûr, il porterait sur les termes du divorce, mais plus sur la décision même de divorcer, conclut McTaig.
Et on referme cette revue de presse, Camille, avec les inquiétudes des démocrates d'Hong Kong, alors qu'une ligne de train à grande vitesse relie depuis hier le continent chinois à l'ancien protectorat britannique.
Hong Kong désormais branché sur le réseau ferré chinois. C'est une première et c'est lourd de sens politique, nous dit The Wall Street Journal, pour qui la ligne ferroviaire ferroviaire longue de 26 km seulement jusqu'à Canton, inaugurée en grande pompe hier, est avant tout un symbole, car derrière les promesses de développement et d'intégration entre Hong Kong et la zone de développement économique de Shenzhen, juste de l'autre côté de la frontière, se font jour des craintes de voir le train conduire à une nouvelle perte d'autonomie vis-à-vis de Pékin. Ces craintes, on les retrouve en filigrane dans le South China Morning Post, basé justement à Hong Kong, et qui rappelle les critiques de ceux qui voient derrière ce chantier ferroviaire à 10 milliards de dollars un éléphant blanc, un investissement coûteux et avant tout politique. 8 années de travaux, dont 3 de retard, un budget qui a explosé. Tout cela sera-t-il rentabilisé un jour, s'interroge The Financial Times, qui cite également des habitants de Hong Kong inquiets de voir leur quartier d'affaires délaissé, leur économie fragilisée et surtout leur indépendance à la Chine renforcée, à rebours, disent-ils, de ces valeurs qui ont fondé la ville, ce pari d'ouverture maritime plutôt que continentale et cette distance toujours réaffirmée avec la politique telle qu'on la fixait à Pékin.
Merci beaucoup Camille Magnard.